Bonjour, nous sommes le lundi 11 novembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Comme chaque semaine ou presque, la relève, c'est une demi-heure avec un jeune talent d'aujourd'hui qui sera bientôt évidemment un talent de demain. Aujourd'hui, on va parler servitude volontaire ou pas, rébellion ou pas, avec un écrivain. Guillaume Lavenant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Protocole gouvernante, un premier roman fort remarqué. Il pourrait bien être bientôt primé la saison des prix littéraires approchant à grands pas. Et j'avais envie de vous demander, finalement, vous êtes un grand tricheur, car j'ai bien lu votre livre et c'est lui qui l'a écrit, c'est pas vous, c'est Lamar. Pouvez-vous nous dire qui est ce Lamar ?
Alors, ce Lamar est un des narrateurs de ce roman qui fait partie d'un groupe de gens qui ont imaginé ce protocole un peu fou, de gens qui vont infiltrer diverses familles, diverses entreprises à la base de la société pour essayer de créer une espèce de révolution du quotidien, révolution de l'intime.
On va commencer parce que tout le monde remarque, quand on lit votre livre et quand on lit les critiques sur votre livre, il est écrit à la deuxième personne du pluriel et au futur. Alors les critiques sont des gens très savants, ils ont vu une référence à Michel Butor et à la métamorphose.
Et la modification.
Pardon, oui, je me suis trompé. Et ben voilà, vous en avez. J'allais vous demander si vous aviez bien réalisé le mariage du nouveau roman et du polar. Est-ce que c'était ça votre projet ?
Pas du tout, dans le sens où j'avais pas conscience d'écrire un livre qui pouvait s'apparenter au polar. C'est vrai qu'on m'a renvoyé que ça peut. Il y a un côté thriller, un côté suspense, etc. Moi, j'avais vraiment l'impression d'écrire un livre de littérature contemporaine. Après, sur le nouveau roman, oui, ça fait partie des influences. Que je reconnais volontiers, qui m'intéresse, mais au milieu de plein d'autres littératures.
Alors j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais moi ce dispositif, ça m'a fait penser à ça. Vous l'avez reconnu, c'est le générique de Mission Impossible signé Lalo Schifrin. Normalement, juste avant de commencer le générique, j'ai pas retrouvé l'extrait qui va. Il y a une voix off qui explique la situation et qui dit « Votre mission, si vous l'acceptez, puis à la fin, il y a cette cassette qui s'autodétruira dans les 5 secondes. » Alors, est-ce qu'il y a de ça dans votre roman ? Est-ce que cette culture pop du feuilleton, c'est aussi quelque chose qui vous inspire ? Vous venez de parler de littérature contemporaine, on parle de nouveau roman. Moi, j'aime assez ce grand écart, je ne sais pas si vous le revendiquez.
Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'avais tout en tête les codes du roman d'espionnage aussi, les récits d'aventure, c'est des choses qui m'intéressent et j'avais envie de faire un récit divertissant. Voilà, même si ensuite, dans le travail de la phrase, de la narration, c'est inspiré de références très littéraires, il y avait aussi la volonté de faire quelque chose de divertissant qui s'apparente à voilà, un récit d'infiltration, d'espionnage, avec effectivement un ordre de mission, des choses à accomplir, très précises, très millimétrées, qu'il faut respecter à la lettre.
Dans ce domaine-là, quelle série vous aimez bien, par exemple ? Est-ce que peut-être vous en regardez pas ? Peut-être vous en avez regardé il y a longtemps, vous en regardez peut-être plus ?
Si, je regarde des séries, mais pas tant que ça de séries d'espionnage, et plus sur des romans d'espionnage qui m'ont inspiré. En série, j'ai pas vraiment de référence.
Et à l'inverse, est-ce que même si vous regardez des séries qui ne sont pas d'espionnage, est-ce que la manière dont sont écrites les séries inspire la manière dont vous avez écrit votre livre, vous pensez ?
Je ne pense pas au niveau de la manière dont j'ai écrit le livre.
Construit plutôt construit.
Oui, non, mais par contre, je me suis amusé à mettre une série télévisée dans le roman. Et là, je me suis beaucoup amusé à montrer comment sont fabriquées les séries, sur quel mécanisme elles fonctionnent et à le montrer au lecteur, quoi, cette série qui est présente, que regarde la gouvernante qui s'introduit dans la famille et la mère de cette famille. Voilà, contient tous ces codes et je m'amuse à les décortiquer pour le lecteur.
Alors, sans trop parler de votre roman, sans trop dévoiler l'intrigue de votre roman, ça s'appelle Protocole gouvernante. Une jeune femme arrive dans une famille plutôt bourgeoise. Elle va s'occuper de la petite dernière. Elle s'appelle Elena. Elle va sympathiser avec les parents. On sent bien qu'il y a quelque chose de pas normal qui va arriver. Vous vouliez raconter quoi justement avec ce premier roman? Quel était le projet derrière? Vous vouliez montrer comment un univers quotidien peut se fissurer petit à petit? Comment finalement tout est possible?
Ce qui m'a intéressé, c'est plus de, on va dire, la question de comment on change le quotidien, comment on bouge et en quoi le quotidien participe de la reproduction de toute la société. Voilà, ensuite, cette envie d'explorer ces questionnements s'est mélangée à des envies de fiction, voilà, des envies de personnages, des envies de développement narratif, d'histoire. Mais une des questions, c'était ça, c'était comment on change le quotidien, quelles sont ces forces qui font que la société se reproduit à l'identique, même si on change les dirigeants au pouvoir, ces forces qui sont des puissances culturelles, sociales, des choses qui nous inculquent des schémas de pensée, qui font qu'on reproduit tout le temps les mêmes vies, les mêmes routines. Et ça m'a d'imaginer comment des gens, un groupe de gens, essayent de perturber ça d'une manière plutôt originale par rapport à ce qu'on imagine d'habitude en termes de révolution.
Vous allez même plus loin, parce que on peut, enfin, je vais pas trop en dire. Vous écrivez même page 15, ça par contre je peux le dire, parce que c'est au début page 15, et ça rebondit sur ce que vous venez de dire. Ce ne sont pas des gens qui échouent. Voilà ce qu'il vous faudra garder à l'esprit, ceux qui n'échouent pas ne vivent pas. Avez pour habitude de dire Lewis, je crois que j'ai jamais aussi mal lu de ma vie. Donc j'ai répété, ceux qui n'échouent pas ne vivent pas. Vous pensez vraiment ça?
Non, alors ça, c'est ce que dit, ce que dit mon personnage Lewis. Moi, du coup, je navigue là-dedans avec plusieurs personnages qui pensent des choses différentes. Là, en l'occurrence, il y a une réflexion sur le fait qu'il est difficile pour ce milieu qui est infiltré, qui est un milieu plutôt bourgeois, d'admettre l'échec, d'admettre que voilà, on n'arrive pas dans un milieu professionnel, par exemple, et la réussite est au centre de ce modèle. Donc c'était, mes révolutionnaires questionnent un peu ce modèle-là.
Alors, il y a cette histoire principale avec donc cette famille et cette gouvernante qui arrive, mais en parallèle, il y a deux autres récits, dont un que vous avez évoqué, celui du feuilleton télévisé qui parcourt le roman. Et puis, il y a aussi cette histoire de cette bande de révolutionnaires avec un duo, avec Strand, qui est l'artiste, Lewis, le théoricien, et puis quelques autres. Comment vous avez fait pour amalgamer ces trois histoires en même temps pour qu'elles arrivent aussi bien à couler l'une dans l'autre?
C'était un long travail, justement, de composition, de voir est-ce que, au début, par exemple, j'avais composé le roman et la série prenait beaucoup plus de place. Je m'étais amusé à rentrer dans cette série, à raconter plein de rebondissements.
On savait
pas forcément la fin, mais on en savait beaucoup plus sur cette histoire d'amour entre l'avocate et le malfrat portoricain. Et malgré le fait que je me sois beaucoup amusé, ça déséquilibrait un peu le roman. Donc j'ai dû gommer des choses, la simplifier pour que ça ne prenne pas le pas sur l'intrigue principale qui est cette infiltration de la gouvernante dans cette famille. Donc voilà, j'ai composé au fur et à mesure de façon à respecter ces équilibres, de façon à créer des échos entre l'histoire de la série, l'histoire principale et l'histoire du groupe de révolutionnaires, voilà, d'où ils viennent, pourquoi ils agissent ainsi, quelles sont leurs discussions.
Alors au début on l'a évoqué, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin. Quels sont les auteurs qui vous ont marqué, influencé?
Il y a plein d'auteurs qui m'influencent, mais je vais dire, moi j'aime beaucoup les littératures de l'imaginaire. Si aujourd'hui je suis aux éditions Rivage, c'est parce que j'aime beaucoup Céline Minard notamment. Après, il y a plein d'auteurs comme Volodine ou plus anciennement Loulipo, Georges Perec, des littératures à système et qui vont explorer des morceaux du continent littéraire un peu singuliers, qui vont chercher un petit peu là où on n'a pas encore exploré. Voilà, donc ça c'est d'un côté. La littérature latino-américaine aussi, qui est une littérature de l'imaginaire, de l'étrange, que j'aime beaucoup. Et d'un autre côté, j'aime aussi beaucoup des littératures très quotidiennes, comme Jean-Philippe Toussaint ou Jean Echenoz, qui sont dans un travail stylistique et narratif qui m'accompagne vraiment.
C'est marrant parce que moi j'aurais cité Kafka, voire Ballard, pas du tout.
Oui, évidemment. Ballard, je connais mal. Par contre, évidemment, Kafka...
Il y a quelque chose de Kafka dans
votre
roman.
Oui, il y a quelque chose de Kafka.
Parce qu'il y a cette réalité qui se déforme peu à peu. On arrive un matin, c'est un peu l'histoire de la métamorphose. Il y a un petit quelque chose qui change et puis petit à petit, tout le monde va changer.
Oui, en tout cas, peut-être sur le rapport au réalisme. J'essaye effectivement de tenir quelque chose de légèrement absurde, un regard décalé sur la réalité, qui bascule pas dans l'absurde complètement, mais un petit peu comme chez Kafka, finalement, en partant d'un postulat un peu absurde, il tient ensuite quelque chose, un fil tendu, tout à fait rationnel. Et c'est ce qui provoque cette étrangeté dans ses textes.
Donc, c'est quoi l'absurde dans votre livre? Il est dans le projet, parce que finalement, moi pour l'avoir lu, je trouve qu'on y croit finalement.
Oui, on y croit, merci, parce que le travail c'était d'y faire croire, mais c'est difficile d'en parler sans trop dévoiler le fil du roman, mais c'est quand même des actions assez...
On a du mal à imaginer, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai qu'on a, quand on arrête et qu'on réfléchit, on a du mal à imaginer ce narrateur extérieur qui arriverait à prévoir aussi justement tout.
Voilà, déjà ça, c'est une première absurdité.
C'est compliqué à comprendre.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, c'est écrit au futur, donc ce narrateur va prévoir tout ce que va faire la gouvernante et aussi comment va réagir la famille qu'elle est en train de perturber, qu'elle est en train d'infiltrer. Et ça crée une étrangeté qui, moi, me permet d'explorer aussi et de jouer avec le lecteur et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui, de nos émotions humaines, est prévisible, se reproduit tout le temps à l'identique ?
Vous aviez écrit une première fois sous une autre forme, et enfin, je voudrais savoir, est-ce que vous avez tout de suite eu cette idée de l'écrire à la deuxième personne ? C'est comme ça que ça a tout de suite marché ? Ou je ne sais pas, vous l'aviez écrit à la première personne et puis vous vous êtes dit non, ça ne marche pas, il faut le reprendre comme ça ?
Non, bah, étrangement, le dispositif était là dès le début. Je me suis mis à écrire, à travailler sur de l'écriture narrative, sur du roman il y a 5 ans. Voilà, j'ai écrit deux projets qui étaient compliqués à terminer et j'ai retrouvé pendant un moment de découragement un morceau de texte écrit au futur avec ce vous déjà et cette personne qui s'introduit dans une famille et qui la perturbe. Ça faisait une page et demie.
Ah oui.
Et en la relisant, ça a généré d'autres idées. J'ai senti que c'était très fertile, que le dispositif vraiment me permettait d'explorer des questions très intéressantes et me donnait en plus des idées d'histoire, de péripéties, de choses qui pouvaient se passer, de personnages. Donc très vite, ça a pris. Et voilà, j'ai commencé à l'amplifier, à le construire, à le composer.
Et vous avez travaillé donc le style, parce que vous avez une écriture très particulière. Au bout de 3 pages, je pense qu'on reconnaît votre écriture. Vous avez un style très blanc, je ne sais pas comment décrire ça, qui est très, très peu d'affect, très dans la description. C'est presque un mode d'emploi. On pourrait presque appeler ça révolte mode d'emploi, votre livre.
Oui, il y a effectivement quelque chose d'assez clinique dans cette écriture qui est induite par le dispositif. C'est difficile de faire la part des choses entre mon écriture et le dispositif. Mais pour que ça marche, il fallait que ces donneurs d'ordre soient assez précis, assez minutieux. Et donc, ça m'amenait à explorer ça.
Allez-y.
Non, et voilà, et du coup, avec aussi le regard sur les détails, sur les choses voilà, très, très précises.
Très matérielle, très méticuleuse. La matérialité est très, très présente, oui. Puisque finalement, c'est une goutte d'eau qui va tout dérégler, mais on n'en dira pas plus. Au moment de la crise des Gilets jaunes, vous aviez fini d'écrire, parce que moi, j'ai pensé à une scène à la fin, je me suis demandé si c'était des choses que vous aviez vues à la télévision à ce moment-là ou pas du tout.
Non, oui, le roman était
fini.
Après, j'entends tout à fait les résonances, et je pense qu'elles sont absolument. Judicieuse, dans le sens où voilà, on a une société qui se questionne beaucoup en ce moment et qu'il y ait des répercussions et que ce soit visible dans notre littérature contemporaine, ça me paraît normal.
Ça, vous pouvez pas le dire, mais que l'écrivain le bon a des capteurs et qu'il sent peut-être des choses avant qu'elles arrivent.
Oui, avant, après, c'est des choses qui sont là depuis longtemps, cette société qui, par soubresaut, résiste à ce qui est en train de s'imposer comme système en France. Mais donc, ça me paraît pas complètement absurde que ça.
Il y a eu la gouvernante de Leïla Slimani dans Chanson douce que je n'ai pas lu donc je n'en parlerai pas. On a eu la famille du domestique de Parasite, la Palme d'Or de Cannes cette année. Comment vous expliquez le regain d'intérêt pour ce type de personnage ? Vous-même, puisque vous-même avec votre gouvernante, c'est un cas de plus. Il y a comme un retour. On avait eu il y a très longtemps Chabrol avec la cérémonie inspirée d'un auteur de polar. Je crois que c'est Ruth Randel, mais j'ai peur de dire une bêtise.
Je serais bien en peine de vous dire pourquoi ce thème ressurgit
parce que la lutte
aujourd'hui.
Des classes revient peut-être, non ?
Peut-être, et parce que je pense que c'est une manière d'interroger d'une manière, parfois, en tout cas dans mon roman politique, l'intime. En amenant un intrus dans une famille, ça nous permet de mettre en exergue cette famille, d'avoir un regard extérieur, à la fois bienveillant et potentiellement malveillant, voilà, une ambivalence. Donc c'est un dispositif qui a fait ses preuves déjà en littérature. Et voilà, c'est un personnage qui est très intéressant pour aller fouiller ce que disent nos intimités, nos quotidiens et ce milieu bourgeois, en l'occurrence, dans mon roman.
Quand vous étiez petit, vous aviez envie de savoir ce qui se passait chez les autres ? Ça me fait penser à ça, ce que vous dites là, vous savez, ce truc quand on passe dans la rue, à Paris par exemple, dans le métro aérien, qu'on voit les fenêtres et qu'on imagine...
Là, j'adore effectivement, il y a une chanson de Juliette que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les yeux d'or » qui parle de ça, de ces vies qu'on voit à travers les fenêtres et dont on voit quelques fragments et qu'on n'a qu'à imaginer ensuite. C'est une image que je trouve assez jolie.
Il y a aussi un film de François Ozon, mais dont le titre m'échappe, c'est Le jour où tout m'échappe, mais c'est pas plus mal, où on voit comme ça comment on devient cinéaste, un petit garçon qui commence par être fasciné par ce qui se passe chez son voisin. Ceci, ouais, c'est ça, c'est dans la maison. Ça m'est revenu. Vous auriez pu écrire un roman érotique. Vous avez essayé ?
Non, j'ai jamais essayé, j'avoue que j'en lis peu.
Je vous demande ça parce que je trouve que dans votre roman, vous faites monter l'angoisse comme on ferait monter le désir. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre roman. Vous ne l'avez pas dit encore ?
Non.
C'est moi qui suis malade ?
Non, non, on ne me l'a pas dit. Bah, après, je pense que dans la lecture, il y a un rapport au désir qui est lié au suspense, à quelque chose qu'on ménage, qu'on fait monter. Donc,
non,
oui.
Mais vous en jouez très bien.
Bah,
je ne sais pas si vous l'avez déjà dit.
Being born right here in this room, press the button of world peace and wipe out everything but the moon. Like a flower on an eastern block, living from boot here to boot. That's all the love that some of us know. That's all the love some know. All the death in my house makes it easy to shop online, where the signal is strong and the tech flows like wine. And I know you've traveled far, but you're still where you are. Look out.
Bien voilà, Devendra Banhar est de retour et j'ai réussi à le dire. Ça s'appelle Kantori Ogaku, qui veut dire musique country en japonais. C'est un hommage, attention, à Harumi Ozono. Je crois que j'ai mis toutes les difficultés dans des annonces. Un chanteur de pop nippon et un extrait du nouvel album donc de Devendra Banhar qui s'appelle Mai, qui est sorti le 13 septembre.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, nous sommes toujours avec Guillaume Lavenant, qui est l'auteur de Protocole gouvernante aux excellentes éditions Rivage. Il faut toujours le dire, le nom de l'éditeur. On a parlé tout à l'heure de vos inspirations. Est-ce que la littérature, est-ce que les textes politiques vous ont inspiré ? Est-ce que vous avez relu des textes politiques ?
Moi, je lis des essais de réflexion politique. Après, je pense que mon travail principal va puiser dans la littérature. Il y a effectivement des réflexions politiques qui ressortissent dans ce roman, mais c'est avant tout un travail de fiction.
Alors, on ne sait pas grand-chose de vous, c'est le charme des tout premiers romans. Si les informations que j'ai glanées sur Internet sont justes, vous vivez à Nantes, vous êtes ingénieur. Là, dans la famille Nouveau Roman, c'était plutôt Rob Grillet, l'ingénieur, il avait fait agro. Et vous avez repris des études de lettres il y a quelques années. Alors, je voulais... C'était une vieille vocation, la littérature, que vous avez fait ingénieur parce que vous étiez bon à l'école ou...
Non, mais j'ai toujours beaucoup lu.
Vous aimez toujours les deux?
Les deux.
Bah, ingénieur et littérature, on a le droit.
Oui, j'aime toujours les deux. Il se trouve que la littérature, je le fais j'écris depuis longtemps et je lis surtout depuis encore plus longtemps. Donc c'est quelque chose qui m'habite, qui fait partie de ma vie. Et là, j'ai trouvé mon équilibre entre les deux, entre un métier d'ingénieur assez scientifique et un métier, au contraire, dans l'imaginaire, dans l'écriture.
Il y a quand même des points communs entre les deux métiers. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont chefs de projet? Est-ce qu'écrire un roman, c'est un métier de chef de projet?
Bah, on est chef de projet de soi-même, en fait, c'est toute la difficulté. Mais oui, en tout cas, il peut y avoir, on peut, si on tire un peu les choses, voir des points communs entre une planification d'un projet d'ingénierie, une planification d'un roman, ça reste une composition. Après, je pense que la comparaison s'arrête là. On n'est pas du tout dans les mêmes domaines, avec les mêmes références. Et voilà, il y a une part à l'imaginaire.
C'est pas la même partie du cerveau qui est mobilisée, vous le sentez quand vous écrivez?
Ah non, ça je ne sens pas du tout ça. Je pense que c'est mon cerveau qui chauffe dans les deux cas.
Non, mais il y a quand même toute une tradition d'écrivains ingénieurs. Vous n'êtes pas le premier, évidemment. Et il y a eu, Rob Grillet,
oui,
il y a
agronome, Vian. Il y a ingénieur agronome.
Il y a Vian, il y a comment, celui dont je me rappelle jamais le nom, celui qui a écrit Homo Faber. Il y a toute cette tradition d'auteurs et qui écrivent souvent. On parle même d'écriture d'ingénieur pour désigner ces écritures un peu blanches. C'est des gens que vous lisiez plus davantage ou pas du tout?
Rob Grillet,
Vian en écriture blanche, je peux repasser mon bac français,
ouais,
demain.
Pour le coup, Vian. mais oui, en l'occurrence, ces auteurs, c'est des auteurs que je lis.
Mais
après,
pas pour ça.
Non, pas pour ça, parce que j'ignorais que Vian était ingénieur, par
je crois
exemple.
Il est polytechnicien, je crois.
Okay.
Il y a quelque chose de très. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de très mathématique dans votre livre. Comme si vous, on l'a un peu dit tout à l'heure, vous observiez un système soumis à une perturbation, c'est un mot que vous employez dans le livre, comme si finalement le social était une équation dont vous cherchez la solution.
Bah.
C'est parce que j'ai su que vous étiez ingénieur ou vous pensez que ça peut se voir quand même?
Non, il y a quelque chose de l'ordre du système. C'est révolutionnaire. Cherche effectivement avec un esprit de système à décortiquer le réel pour le modifier, pour le changer. Donc ça part d'une analyse et effectivement d'une vision un peu des interactions humaines qui serait la moins polluée entre guillemets par l'émotion, ce qui effectivement finit par les rattraper puisque la gouvernante se fait rattraper par cette émotion. Ils sont sans cesse en train de prévenir les égards qu'elle va avoir par rapport à la famille et l'empathie qu'elle va ressentir par rapport à ce couple et cette famille qu'elle infiltre, par rapport à la petite fille dont elle s'occupe. Mais en tout cas, ils essaient de bâtir un système qui va justifier leur action, comme le font d'ailleurs la plupart des groupes politiques ou de militants, c'est-à-dire bâtir un système d'idées qui nous permettent de passer à l'action, conforté par ce système d'idées.
J'ai aussi lu que vous faisiez partie d'un collectif de théâtre à Nantes, là où vous vivez. Est-ce que Protocole Gouvernante aurait pu être une pièce de théâtre ou est-ce que ça peut en devenir une?
Alors, on m'a déjà posé la question et j'avoue que...
Non, c'est une faute professionnelle pour moi, là. Si on vous a déjà posé la question.
Non, mais parce qu'on sait que je fais du théâtre et effectivement, on m'a renvoyé le fait qu'il y a un aspect assez visuel dans le roman. Après, je pense que le procédé est vraiment très littéraire. Pareil, ça se réfère à des textes littéraires. Si je devais en faire une pièce de théâtre ou si quelqu'un d'autre devait en faire, puisque moi j'ai assez transpiré sur ce texte, je pense qu'il faudrait trouver, s'en inspirer lointainement et trouver une manière théâtrale d'interroger ces questions-là, alors que là, elles sont interrogées d'une manière littéraire. J'ai toujours une certaine méfiance pour les textes qui peuvent être adaptés directement, soit au cinéma, soit au théâtre. C'est quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la littérature qui ne se joue pas complètement dans ces textes.
Ouais, et là, je ne pense pas qu'on puisse l'adapter tel quel, parce que ça ne marcherait pas du tout sur une scène. Il faut complètement le reprendre, le réécrire. Le dispositif serait très compliqué tel quel.
Oui, je pense aussi.
Mais il n'empêche que vous avez, je pense, un sens du récit qui doit avoir été marqué par cette expérience du théâtre, non?
Parce c'est possible. Ça, j'ai du mal à avoir du recul sur ma propre pratique par rapport à ça. Mais effectivement, voilà, il y a une. En tout cas, j'essaie de réfléchir à la dramaturgie de l'histoire. J'essaie de construire. Ça reste un art narratif. Le théâtre et le cinéma sont d'autres arts narratifs, potentiellement narratifs, on va dire. Donc, effectivement, c'est poreux. Il y a des passerelles entre ces arts.
Oui, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, comment dire, il y a une question de géométrie dans votre livre, et je vais vous en lire un extrait que je vous laisserai commenter après. En le voyant, Roderick Piafra, regardez-le, ce cave. Regardez-le, retenez-le de s'approcher. Rappelez-lui que, comme chacun, le voisin n'est coupable de rien. Des lignes et des corps, disait Lewis. Des lignes et des corps qui s'entrechoquent dans un certain volume. Nous ne sommes pas plus que cela. Rappelez-le-lui, les mots de Lewis. Des lignes, dites-lui cela. Des lignes et des corps soumis aux aléas du vent. Et répétez-lui qu'il est en train de tout mettre en péril, qu'il faut disparaître au plus vite, qu'il faut coller au protocole. Chacun doit aller à son protocole, lui répéterez-vous. Nous ne sommes pas loin du but. Vous lui répéterez tout cela et pourtant, une fois sur la moto, vous ne pourrez l'empêcher de ralentir. Et pardon, d'aller frapper à la vitre du restaurant de sa main retournée et en y laissant dresser le majeur. Les dernières images qui vous parviendront du voisin seront ses yeux ébahis et furieux, son visage qui rougit, son bras gauche qui écarte le commis et ses courtes jambes qui se mettent à pédaler. Vous imaginerez sans le voir le sourire de Rodrigue, et à mesure que vous vous éloignerez, vous repenserez au voisin tel que vous venez de le voir, avec son air fatigué, son menton mal rasé, ses poches sous les yeux. Vous repenserez à l'habitude que vous avez prise de le croiser là-bas, dans ce quartier au plus soigné, et cela vous semblera un souvenir vaporeux. Des lignes et des corps, vraiment ? Guillaume Lavenant ?
En fait, une des questions qu'explore le roman, c'est comment on change l'autre. Pour changer l'autre, il faut être persuadé d'une idée et persuadé qu'on a raison et essayer de lui imposer. Ça, c'est une façon de voir les choses. Ou au contraire, ça peut être de rentrer en empathie avec l'autre. Mais si on rentre en empathie avec l'autre, à partir de quel moment on garde nos idées, notre individualité ? Comment se joue ce rapport-là de vouloir changer l'autre ou vouloir... Est-ce qu'on peut changer l'autre sans vouloir être changé ? Est-ce qu'on peut changer l'autre sans vouloir être ému par lui ? Et donc voilà, ces révolutionnaires essayent de contrôler l'émotion que va ressentir la gouvernante en permanence. Et en même temps, elle va être attrapée, et ils le savent, ils le prévoient, par ses émotions, par ces liens d'amitié qu'elle crée avec les personnes de cette famille. Donc c'est ce paradoxe un peu de comment on change, même dans la discussion de tous les jours, politiquement les autres, et comment surtout on accepte d'être changé soi. Et comment... Avec cette volonté-là, on bâtit une action stratégique pour changer toute la société. Voilà.
Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque tout va dépendre d'une goutte d'eau. C'est une métaphore du changement climatique, cette eau qui va arriver ou pas du tout ?
On peut le voir comme ça.
C'était pas...
Non, c'était pas une... C'était clairement pas quelque chose que j'avais en tête quand je l'ai écrit.
Mais ça peut être ça. Vous, vous allez maintenant, vous avez enchaîné, là vous avez un premier roman, vous allez peut-être être primé, mais en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, ça vous donne envie de continuer ou le succès de ce premier roman vous affole un peu et vous vous dites oh là là, on va mettre la pédale douce. Vous êtes plutôt stimulé ? Il y a des gens que ça paralyse ?
C'est assez stimulant de savoir que ce qu'on écrit est partagé et aimé par certains, qui ne sont pas non plus si nombreux que ça. Mais
achetez le livre. Dites à Guillaume Lavenant que vous aimez son livre.
Mais voilà, c'est assez stimulant de se dire si j'en écris un second, il y aura des lecteurs qui vont lire le travail, qui ont aimé le premier livre et qui peut-être aimeront le second.
Le premier étant une feuille qui vous restait quelque part ou un passage de Word quelque part qui est perdu sur un ordinateur. Est-ce que là, vous êtes en train de regarder tous les vieux bouts de Word qui vous restent un peu partout à la recherche d'une idée de deuxième roman ?
Non, j'ai des romans à demi-mort comme ça que je n'enterre pas complètement et qui m'accompagnent encore et je me dis peut-être que je m'y remettrai, mais pour l'instant c'est plutôt des nouvelles idées qui arrivent, dont une qui est en train de prendre un peu de place et voilà, où j'ai des idées de fin, de structure et de dispositif encore une fois. Auquel j'ai l'intention de me mettre en début d'année prochaine. Pour l'instant, je suis sur une pièce de théâtre puisque je continue à écrire du théâtre. Donc en ce moment, ce qui m'occupe, c'est l'écriture d'une pièce et la mise en scène d'une pièce.
Qui sera jouée à Nantes ?
Qui sera jouée à Nantes, oui. On présente une première version en novembre au Théâtre universitaire de Nantes.
Vous allez toujours en cours ? Vous avez fini ? Parce que j'ai lu que vous avez repris des cours de lettres. Vous avez passé un master.
Ah, c'était il y a longtemps.
Ah, pardon.
J'ai eu mon master il y a bientôt 10 ans.
Une école d'ingénieur. Ah oui, il y a bientôt 10 ans. Ouais. Mais vous êtes si jeune, c'est pour ça. On se rattrape comme on peut. Et donc, ouais, la pièce de théâtre, dites-nous en deux mots, puisqu'elle va être présentée en novembre.
Oui, c'est une pièce de théâtre qui, pour le coup, est sur un thème assez social. Ce sont trois étudiants qui, au moment de passer à l'âge, de s'intégrer dans la vie professionnelle, vont un peu perdre leurs idéaux, leurs illusions. J'analyse un peu ce moment où, étant jeune, étudiant, on va faire face aux pressions professionnelles et familiales qui nous demandent de nous insérer dans une société qui ne nous correspond pas forcément. Et voilà, j'analyse à travers leur parcours comment ils s'accomplissent ou pas, selon les personnages, dans ce passage.
Il y en a un des trois qui est ingénieur ?
Il y en a un des trois qui est ingénieur.
Merci beaucoup, Guillaume Lavenant, d'être venu à Radio Campus Paris. L'enregistrement était un peu compliqué. Je vous remercie d'être venu et d'avoir été un bon partenaire.
Merci
beaucoup à vous.
Merci
et à vous. Très gros merde pour les prix littéraires. Vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà le 6e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par Margot, présentée et préparée par Christophe. On se retrouve bientôt à la même heure pour parler d'autre chose. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les émissions de Radio Campus Paris, avec un remerciement spécial à la RATP pour son aide pour cette émission. Merci.